Dans ce deuxième épisode, arrêtons-nous sur le photographe Pids. Spécialisé en photographie du spectacle, il n'hésite pas à s'aventurer dans de multiples terrains. Le portrait, les festivals, le reportage en passant par la photographie de paysage. Selon lui, l'empathie est essentielle dans le travail du photographe. Il s'agit, je cite, « de faire corps avec le sujet pour l'apprécier et en montrer le meilleur ». Bonjour Pids.
Bonjour Sacha.
Merci de participer à ce deuxième épisode de Arrêtons-nous sur, entièrement dédié à la création, à l'échange autour de la création. Alors, je te reçois en tant que photographe. Tu as la particularité de photographier une grande variété de sujets. Nous y reviendrons juste après. Ma première question, Pitz, quelle est ta conception personnelle de la photographie, selon toi?
La conception personnelle, en fait, pour moi, la photographie, c'est un mode d'expression, comme l'écriture, comme la radio, comme le podcast que tu es en train de faire, sauf que c'est un mode d'expression visuel. Donc il faut montrer, témoigner. Moi je suis pas photographe plasticien. Je suis un photographe du réel. Donc en fait j'invente pas des situations. Je photographie ce que j'ai sous les yeux. Alors parfois en modifiant avec des temps de pose ou des profondeurs de champ ou des choses techniques que la photographie me donne. Mais non, c'est vraiment la notion de témoignage comme en reportage quoi.
Comment tu définirais ton style en un mot?
En un mot, alors je vais utiliser plus de mots. Je suis pas très bien placé pour en parler. Il faut demander ça aux gens qui regardent mon travail. Moi, je sais pas. Je vais dans les directions. Je vais vers les sujets que j'aime. J'ai la chance de pouvoir les choisir la plupart du temps. Donc, mon style, c'est. J'en sais rien. En un mot, j'en sais rien.
Tu ne sais pas. Alors pour toi, c'est quoi le rôle essentiel du photographe, la qualité indispensable que doit avoir un photographe?
Pour moi, un photographe doit rendre compte, montrer les choses, généralement de manière positive, c'est ce qu'on lui demande. Alors bon, évidemment, sauf si t'es reporter de guerre où on te demande de montrer à quel point c'est dégueulasse, mais c'est un autre sujet. Pour moi, le photographe doit faire l'éponge et rester impressionné par tout ce qu'il photographie. Donc il y a Bill Brandt, qui était un photographe des années 30, qui a notamment été photographe assistant de Man Ray et qui a fait du reportage social en Angleterre dans les années 30, qui résume tout en une phrase que je trouve vraiment magnifique, donc je vais la citer. Il disait « Cela fait partie du travail de photographe, de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l'enfant qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étrange. » Je trouve que tout est résumé là-dedans. Il faut garder les yeux ouverts et garder les antennes tendues. Alors j'imagine que c'est un peu une nature. On c'est pas quelque chose qui se fabrique. Faut avoir ça un petit peu à la base. Mais ça s'entretient en tout cas. Pour moi, ça c'est la qualité du photographe. Et du coup, sur certains sujets, faut avoir aussi une capacité d'empathie. Pour moi, ça va avec. C'est-à-dire que t'es obligé un peu de faire corps avec ton sujet pour l'apprécier et pour pouvoir en montrer le meilleur, en tout cas.
Donc du coup, tu as collaboré aux Arc Film Festival qui se déroule une fois par an. Pourrais-tu nous faire part de comment as-tu été mené à travailler avec ce festival?
Alors c'est une histoire assez simple en fait. Le festival a été créé par deux copains d'enfance, dont un des deux est mon cousin. Voilà. Donc quand ils ont créé le festival en 2009, ils sont lancés dans une aventure gigantesque, avec évidemment assez peu de moyens parce que pour une première édition, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui les suivaient. Donc en fait, ils ont demandé autour d'eux qui était en mesure de leur filer un coup de main. Donc Guillaume m'a sollicité en tant que photographe et l'autre créateur du festival, Pierre-Emmanuel, a une sœur qui est photographe aussi. Donc en fait, c'est comme ça que Alexandra et moi on s'est retrouvés sur le festival. Alexandra, elle, couvre la partie portrait, c'est-à-dire que c'est elle qui fait les portraits des guests en conditions studio, intérieures ou extérieures, avec des flashs, etc. Et moi, je suis plus sur la partie reportage. Donc la première année, j'étais tout seul et je courais comme un cabri parce que je découvrais ce type de reportage et j'étais très excité et qu'il y avait plein de choses à faire. Et puis petit à petit, l'équipe s'est étoffée et la dixième année, on était 4 sur l'équipe reportage. Et donc moi, j'étais en prise de vue, mais j'étais aussi en gestion d'équipe à gérer les plannings, à voir ce qu'il fallait envoyer, à gérer les demandes, parce qu'en fait, on doit aussi bien faire les photos de la compétition, enfin des films en compétition, on doit faire les photos du jury quand ils se baladent dans la station pour montrer que la station est super et que les conditions d'accueil sont géniales. Il faut faire les photos des courses de ski, parce qu'il y a aussi des courses de ski entre les professionnels du cinéma. Il faut faire les photos des gens en train de manger de la raclette, parce que la raclette, c'est super bon. Il faut faire des photos des gens en train de faire la fête, parce que c'est aussi ça, un festival. Il faut faire les photos des concerts, parce qu'il y a aussi un événement qui s'appelle le Music Village au sein du festival, sur lesquels il y a des concerts vraiment sympas. On a vu passer Jane avant qu'elle fasse du bruit. On a vu passer Lilywood and the Pricks avant qu'on entende beaucoup parler d'eux. On a vu passer La Femme. On a vu passer plein de choses. Et donc c'est un épisode un peu à part dans l'année, parce qu'on travaille énormément. Je m'emballe un peu, hein, sur la réponse, mais voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Dans la même journée, tu peux te retrouver à faire des photos dans des conditions assez difficiles de prise de vue dans une salle de cinéma qui est évidemment très peu éclairée, ou ensuite aller faire des photos d'une course de ski en plein soleil, et après aller faire des photos d'un concert, et voilà, et donc t'as quelque part 3 ou 4 spécialités du métier de photographe qui s'enchaînent dans une seule journée, et c'est hyper excitant. Voilà, j'adore ça, le fait que ça change tout le temps, c'est un vrai plaisir.
Super. Et du coup, en parlant de reportage, parce que tu es surtout spécialisé dans ce festival de reportage, je voudrais revenir sur la polyvalence que tu as, c'est-à-dire que tu photographies une grande variété de sujets. Et pourquoi une telle variété? C'est une curiosité que tu as de... Une curiosité débordante de vouloir photographier une grande variété de sujets.
Peut-être. Ma vraie spécialité, c'est la photographie de spectacle. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai fait des études de photo. J'ai fait 3 ans d'études de photo à Toulouse, et pendant mes études de photo, j'ai commencé à m'intéresser à la photographie de concert. Donc, je traînais dans les cafés concerts toulousains, j'ai fait beaucoup d'images. Et puis c'est devenu ma spécialité parce que c'est des lumières un peu particulières, et puis que j'aimais ça, et voilà, j'en fais encore aujourd'hui en collaboration avec des groupes ou un magazine local qui s'appelle Illico. Et donc ça, c'est ma vraie spécialité. De fil en aiguille, j'ai travaillé pour le... Je suis passé au théâtre. Après le rock'n'roll, je suis passé au théâtre. J'ai travaillé pour le théâtre de l'Odéon à Paris. J'ai travaillé pour le théâtre du Nord, pour quelques structures et des compagnies en direct. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, je passe d'un sujet à l'autre, et avec les antennes toujours ouvertes, un peu comme ce qu'on disait par rapport à la citation de Bill Brandt, de rester toujours à l'écoute, c'est les antennes bien tendues. Et voilà, donc j'arrive à rencontrer plein de gens. C'est les rencontres, en fait, qui font qu'à un moment, t'as une demande. Moi, je suis un photographe de commande, donc on me demande d'aller faire des photos à tel ou tel endroit, et puis j'y vais. Donc, au hasard des rencontres, au plaisir des rencontres, j'ai des commandes différentes, et c'est ce qui m'amène à un coup à faire du reportage humanitaire, comme j'ai pu le faire quand j'étais jeune photographe, ou à aller travailler sur la mission bassin, sur le bassin minier autour de Lens, comme je le fais en ce moment pour une autre structure. C'est à chaque fois le plaisir des rencontres. Et puis quand j'étais gamin, ma très très grosse inquiétude, c'était d'avoir un métier routinier. C'était tous les jours de rentrer dans le même bureau, dans la même entreprise pendant toute ma vie. C'était quelque chose qui me terrorisait vraiment. Je m'imaginais pas faire ça, avoir le même néon au-dessus de mon bureau pendant toute ma vie professionnelle. Ça me faisait ultra flipper. Et voilà, donc je pense que j'ai finalement réussi à fabriquer un métier qui m'évite les redites au maximum, et qui me permet de rencontrer des gens tout le temps et des gens différents. Parce que quand tu travailles sur du théâtre, mmh. ou quand tu travailles au Festival des Arcs, ou quand tu travailles sur le bassin minier, tu vois pas du tout le même genre de personnes, et à chaque fois ça te nourrit, en fait.
En parlant de rencontres, il y a des rencontres qui ont été marquantes, ou qui ont été marquantes dans ton parcours, dans ta carrière?
Plein de rencontres qui ont été marquantes. Quand j'étais étudiant, j'ai rencontré un photographe grenoblois qui m'a filé tous ses tuyaux. Les photographes sont très très avares de tuyaux, de conseils, parce que ils ont l'impression que en te disant quelle marque de matériel ils utilisent, tu vas faire des photos meilleures qu'eux. C'est un truc assez un photographe est très individualiste. Donc j'ai rencontré un photographe qui m'a filé plein de tuyaux, plein de conseils. J'ai adoré ça. En sortant de l'école, j'en ai rencontré un autre avec qui je suis toujours ami d'ailleurs, et voilà, et qui lui m'a filé plein d'autres tuyaux. J'ai rencontré des metteurs en scène qui m'ont appris comment dire ça, qui m'ont appris qu'on pouvait diriger une équipe, diriger une troupe en étant d'une délicatesse sans nom et en assumant toujours ses choix. Avant de balancer la troupe sur scène sur un spectacle qui est un peu difficile et qui est très attendu, le metteur en scène, juste avant que tout le monde parte et sur la première du Festival d'Avignon, pour l'ouverture du Festival d'Avignon, donc un spectacle qui est très attendu, avant que tout le monde monte sur scène, le metteur en scène dira à tout le monde: bon, alors vous êtes au top, vous êtes exactement là où je voulais qu'on arrive. Donc, si ça se passe mal, si quoi que ce soit se passe mal, c'est de ma faute et je l'assumerai. C'est mon nom qui est sur l'affiche, c'est moi qui ai mis en scène. Vous êtes super. Le reste, si ça se casse la gueule, c'est de ma faute. Merci à vous. Et il les lâche comme ça. Donc, en fait, il leur enlève la pression du public. Et moi, j'ai trouvé ça absolument magique de me dire que ils prenaient les risques et que jusqu'au bout, en fait, enfin, ils prenaient les risques. Jusqu'au bout, il se débrouillait pour décharger ses artistes. Et ça, c'est des rencontres qui sont hyper fortes. Et finalement, même si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, parfois tu en sors une phrase ou deux qui tournent longtemps en tête et puis qui te servent de repère dans ton cheminement personnel.
Alors, tu es aussi, tu transmets aussi la photographie avec Graines de Photographe. Est-ce que l'idée de transmission et d'échange est importante pour toi dans l'enseignement de la photographie?
Ouais, carrément. C'est ce que je disais avec le photographe grenoblois que j'ai rencontré quand j'étais étudiant. Lui, il m'a filé plein de tuyaux et ça m'a fait avancer à vitesse grand V. Et donc j'ai trouvé ça tellement tellement chouette, et puis je trouve ça tellement bizarre qu'on donne pas ces tuyaux, que je me sens un peu redevable, tu vois, et c'est à mon tour de poser les connaissances sur la grande roue de la photographie. Voilà, donc c'est super quand il y a quelqu'un qui est complètement débutant et qui en 4 heures de cours arrive à un résultat qu'il aurait jamais imaginé. C'est super. Je me rappelle d'une élève qui est venue me voir en me disant, en fait c'est ma famille qui m'a, donc c'était une mère de famille, elle me dit c'est mon mari qui m'a offert le cours, parce que quand on part en vacances, moi j'ai mon appareil photo et il passe mon temps à m'attendre parce que je prends trop de temps pour faire les photos que je trouve belles, donc ils en ont marre et donc ils m'ont offert ce cours. Et voilà, donc le cours se passe et le soir même j'ai un mail. Et elle me dit, ben voilà, on s'est quitté à tel endroit, j'habitais à 500 mètres, j'ai mis 1h30 pour rentrer, j'ai photographié tout ce que j'avais autour de moi. Et là, je me suis dit que bon, son mari avait perdu son pari, parce que ça allait être encore pire, mais que moi j'étais très content parce qu'elle était ultra mordue par la photo, et c'est ça que j'avais réussi à faire passer plus que de la technique, en fait.
Tu peux nous parler aussi de ta participation au projet de revalorisation, entre guillemets, du bassin minier, en collaboration avec l'Office de Tourisme, si je ne me trompe pas?
Ouais, alors il y a en 2017, ouais c'est ça, il y a autour du Louvre-Lens, qui est un bout de l'Office du Tourisme du Pas-de-Calais, Euralens et la Mission Bassin Minier, qui ont décidé de créer une photothèque en commun, et donc ils ont fait un appel d'offres et j'ai remporté un bout de ce marché-là, et donc je me suis retrouvé à aller me balader sur les terrils avec des commandes précises, hein, c'était pas juste flâner pour faire des photos de paysages. Et donc ça m'a permis de découvrir le bassin minier, parce que moi je suis pas du tout de la région, j'ai grandi dans les Alpes, donc les montagnes sont un peu plus hautes, mais elles sont naturelles. Et moi je suis hyper fasciné par le fait que des terris aient pu être faits par les hommes. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Et j'ai pas du tout une vision, la vision triste germinale et tout ça du bassin minier. Je le vois vraiment comme un patrimoine. Alors c'est peut-être pas une bonne idée hein, d'effacer comment on pourrait dire, le drame industriel, le drame humain qu'il y a derrière. Enfin, je l'efface pas en fait. C'est voilà, il est là, il est en train de s'effacer heureusement, mais voilà, il reste ces vestiges là et je trouve que c'est assez fascinant cette histoire industrielle de voir que l'histoire des mineurs a toujours quelques années d'avance sur l'histoire ouvrière en réalité. C'est-à-dire que les syndicats, c'est là, les manifestations qu'on a aujourd'hui, ça part de là, etc. Le MEDEF part de là aussi, hein, le grand capitalisme part de là avec des chefs d'industrie qui sont à Paris, qui ont aucune notion de savoir comment ça se passe dans les corons et qui continue à envoyer les gens au turbin en les payant une misère. Et voilà. Et donc, le fait d'aller faire des photos de ce paysage-là, c'était en donner une image, d'essayer d'en donner une image positive. En tout cas, avant d'arriver à Lille, j'ai vécu à Toulouse pendant 8 ans. Quand on me parlait de Lille, j'avais vraiment une image noire, triste, pluvieuse.
Comme beaucoup ont aujourd'hui.
Excuse-moi?
Comme beaucoup ont aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, c'est ça, comme beaucoup ont aujourd'hui. Et d'aller faire des photos de ce territoire-là pour le montrer différemment, je trouvais que c'était chouette. Et que ça peut amener à changer la vision que les gens peuvent avoir de ce territoire-là. Comme l'image de la ville de Lille a changé depuis une quinzaine d'années, depuis Lille 2004, où avant on s'imaginait que c'était une ville pauvre et triste. Maintenant, on associe Lille à une ville de culture. Si on peut arriver à faire ce truc-là avec le bassin minier, avec l'agglomération de Lens, etc., ça peut être bien. D'ailleurs, leur leitmotiv, c'est du noir au vert. Donc, c'est pas la culture qui vise, c'est plutôt le fait de reverdir quelque chose, sans greenwashing, hein, évidemment, mais voilà, de montrer que c'est pas un territoire lunaire esquinté par une industrie qui aurait fait n'importe quoi.
Dernière question, il y a un photographe en particulier que tu admires ?
Alors, il y en a quelques-uns, évidemment, mais il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, qui est hyper connu, qui s'appelle Sebastião Salgado, qui est un photographe brésilien qui doit avoir, je sais pas, 80 ans aujourd'hui. Il y a eu une grosse polémique même autour de son travail, parce qu'en fait il a un sens de l'esthétique qui est absolument incroyable, un sens de la lumière qui est fou, et donc même quand il travaillait sur des scènes très difficiles, il a travaillé sur des mines de sel à ciel ouvert par exemple, en Amérique du Sud, où les gens sont dans la souffrance absolue, et où on a des plans larges où on imagine aisément que c'est une fourmilière. Et en fait, ces images sont d'une beauté à tomber par terre, alors que le sujet s'y prête pas. Donc, on l'a beaucoup accusé de faire du beau avec de l'horrible, et donc de pas arriver à rendre compte de ce qui se passait, etc. Néanmoins, je pense que c'est sans doute une façon de se protéger un peu, c'est-à-dire que d'essayer de faire de l'esthétique, de se concentrer sur la lumière, le cadrage, etc., pour se défaire à titre personnel de la situation existante. Et puis au-delà de son travail qui donc est magnifique et que je vous encourage à aller voir, vous trouverez son boulot sur les réseaux sociaux. Il est retourné au Brésil, il a racheté les terres sur lesquelles il a grandi et qui avaient été totalement défrichées et qui étaient devenues un petit désert végétal, et petit à petit, ben en fait, il a replanté des arbres, etc. Et là, au bout de 20 ans, il se rend compte que toute la surface qu'il a achetée il y a quelques années est revenue dans l'état dans lequel elle était quand il était gamin. Elle s'est revenue dans le même état, tant au niveau de la flore que de la faune, avec des espèces endémiques qui sont revenues, etc. Donc autant dans son travail photographique que dans sa conception du monde, de l'écologie et de il faut arrêter de faire n'importe quoi. Je trouve que cet homme-là mérite grand respect. Il y a un long métrage qui est sorti sur lui, je sais plus comment il s'appelle, mais vous devriez arriver à le trouver en VOD, et c'est voilà, c'est à voir. À voir sur grand écran pour voir ces photos en très grand.
Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Pete, d'avoir participé à ce deuxième épisode de Arrêtons-nous sur. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur la page Facebook de Pete. Donc, si je ne me trompe pas, Pete-photographe. C'est bon.
C'est ça.
Et on se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.